sujet. Secrétaire de séance, je souhaiterais proposer le secrétariat de séance à Madame Martineau, si elle en est d'accord, en secrétariat de séance. Et un modérateur, je croyais que quelqu'un était arrivé.
Quelqu'un de la commission, je prends le modérateur.
Donc, Monsieur Telman. Madame Castille. Attendez que je ne me trompe pas. Ok. Vous êtes trop loin. Merci. Bien. Ce que je voulais vous proposer en communication en entrée de séance, c'est une intervention de M. Pasternak. C'est une, je dirais, une communication sous forme de mise au point, je crois. Et puis ensuite, nous aurons la communication dont je vous avais parlé de Yves Delman sur les contentieux, et notamment sur trois des plus importants contentieux. Ah, c'est bien ça ? Les trois plus importants. Voilà. Et puis après, nous enchaînerons sur le conseil municipal, sur l'ordre du jour du conseil municipal. Monsieur Pasternak.
Bonsoir à tous. Chers collègues, suite à l'article paru dans Le Parisien, je tiens à vous apporter quelques précisions. Le pavillon qui était situé au 27 rue Hoche, ainsi que le terrain IAB, n'ont jamais été dans le périmètre du terrain de l'école Marie Curie. Avant la vente de ces parcelles à la SAIEM, des mesures de décontamination ont été effectuées et ont été annexées aux actes de vente. Ces mesures réalisées n'ont pas permis de mettre en évidence la présence d'une contamination superficielle liée à l'activité de l'ancienne usine jouxtant le site. D'ailleurs, M. le maire a adressé une lettre à M. le préfet en date du 17 juin 2011 à propos du pavillon 27 rue Hoche, et concernant déjà à l'époque les affirmations d'un conseiller municipal d'opposition et d'une association de riverains qui relevaient d'une mauvaise polémique destinée à générer une certaine inquiétude auprès des habitants. Quant aux conclusions de cet article, elles ne font que réaffirmer la volonté de tromper par des propos fallacieux du même conseiller municipal d'opposition. En effet, l'adresse indiquée dans cet article est celle de l'école Marie Curie et non celle du terrain de la résidence qui est donc hors du périmètre de l'ancienne usine. Et quant à y faire des mesures, elles ne s'avèrent pas utiles dans la mesure où ces terrains ne sont pas contaminés.
Si vous voulez, bien sûr.
Oui, bonsoir à tous, monsieur le maire. Écoutez, moi ça ne me gêne pas que Jean-Jacques Pasternak fasse une communication, mais pourquoi ne pas me citer, excusez-moi, mes positions sont publiques, l'article du Parisien auquel vous faites référence, j'y suis cité, donc écoutez...
Mais c'est pour ne pas faire trop de publicité sur vous, c'est tout.
Alors, à ce moment-là,
vous faites
excusez-moi, mais paradoxalement, à ce moment-là, il ne faut peut-être pas en parler en conseil municipal,
écoutez,
et alors qu'on est en train de...
Savoir ce que nous... Non, mais franchement, M. Arazi, savoir ce que nous devons faire, laissez-nous quand même cette possibilité. Hein. Donc, je tiens à ce que la communication de M. Pasternak remette les choses à l'endroit. Ce qui est inadmissible, c'est que, bien sûr... Les organes de presse adorent ce genre de propos. Ce qui est inadmissible, c'est ce jour-là, nous avons inauguré une résidence pour jeunes actifs de 95 logements, ce qui est assez exceptionnel dans la région, et que la seule chose qui ressort dans le titre, c'est que ce bâtiment a été construit sur un site radioactif, ce qui est totalement faux. Je tiens à le répéter. Est-ce que vous pensez un seul instant que la préfecture, que les services de l'État nous auraient en quoi que ce soit autorisé à construire une résidence de ce type sur un site pollué. Il n'y a que vous et quelques personnes qui adore se faire peur, mais surtout aussi pour faire peur à d'autres personnes qui peuvent être inquiètes, bien sûr, et je les comprends. Bien voilà, c'est formidable.
Vous permettez que je réponde éventuellement
permettre,
sur le fond.
Pas pour faire
non, mais
débat,
attendez,
hein.
Vous me laissez donner la parole, s'il vous plaît. D'accord.
Bon, monsieur Fontaine a demandé la parole avant que vous n'interveniez.
Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, j'avoue que j'ai été extrêmement attristé, effectivement, de voir cet article et de voir l'intervention d'un conseiller municipal qui aurait dû pourtant se réjouir, comme je pense tout le monde a pu se réjouir effectivement à Nogent, de pouvoir accueillir maintenant 90 jeunes actifs, 95 jeunes actifs, et en plus un commerce effectivement pour les habitants du quartier. Je pense que ensuite, en plus, je veux dire, prononcer devant un journaliste, effectivement, qui était manifestement pas du tout au courant, hein, un mensonge éhonté sur ce sujet de la pollution radioactive de notre terrain, un terrain acheté par la SAIEM à la ville et au consortium, je veux dire, alors que tout a été fait pour que, justement, on prouve qu'il n'y avait aucune pollution sur ce site et que cela a été mis dans les actes de notariés, d'une part, que ça a été précisé à deux reprises devant cette assemblée. La première fois, effectivement, lorsque, justement, nous avons acheté, effectivement, à la ville le pavillon, effectivement, qui est abrité à l'époque un des fonctionnaires de la ville, hein, et qui était rue Hoche, et puis les terrains IAB. On en a parlé effectivement qu'on avait acquis ces terrains IAB et que ensuite, pour augmenter la constructivité et permettre la construction d'une résidence de ce niveau-là, je veux dire, on vous a soumis effectivement une délibération prévoyant l'augmentation évidemment de la constructibilité par la loi Boutin, la loi Molle. Bon, et à ce moment-là, nous avons reprécisé effectivement que tout cela était parfaitement en ordre vis-à-vis de la pollution radioactive, que c'était totalement différent des terrains voisins sur lesquels avaient été construites des écoles et qui appartenaient à l'usine Marie Curie. Donc tout ça a été bien clair. Et donc, M. Arazi, vous le saviez, nous vous l'avons dit, nous l'avons dit en public, nous avons même donné des documents. Et donc, le dire effectivement à des journalistes le jour de l'inauguration, eh bien, c'est un procédé parfaitement indigne. Voilà.
Monsieur Arazi, et on termine par ça.
Oui, je note quand même qu'on n'apprend pas de nos expériences et de nos erreurs, parce que je veux quand même rappeler, et je le rappelle aussi à l'État, ce faisant, qu'on a construit une école sur un terrain radioactif et oui. Qu'on a dû quand même, a priori, a posteriori, la faire démolir et se retrouver dans la situation dans laquelle on est. Donc je trouve tout à fait invraisemblable de se retrouver une deuxième fois devant cette situation parce que, excusez-moi, vous n'avez pas fait les mesures demandées en profondeur et qui auraient permis de lever le doute. Et
oui,
c'est ce
oui,
que
c'est
j'ai
ça.
Dit, c'est ce ça. Que je vous confirme
vous êtes,
ici.
Vous êtes le chevalier blanc.
Et l'avenir nous donnera
blanc,
raison
Razi.
À l'un ou à l'autre.
À partir de quels éléments vous pouvez affirmer de telles choses? Même lorsque le chantier n'avait pas commencé, sur votre insistance, mais aussi parce que nous avions décidé d'avoir l'ensemble des éléments en notre possession, nous avons fait de nouveau des mesures. On a commandé un organisme extérieur qui a refait des mesures pour confirmer le fait que ce terrain n'était pas pollué. Est-ce que vous pensez un seul instant que j'aurais laissé un employé de la ville plusieurs années dans ce pavillon sans avoir pris la précaution de savoir si ce pavillon était contaminé ou pas? C'est un procès, je dirais, Non, non, mais là, c'est inimaginable ce que vous êtes en train de dire.
On a eu ce débat.
Arrêtez, pour faire parler,
et je rappelle
vous,
que les mesures
monsieur,
que vous aviez faites
monsieur,
étaient de l'ordre de 1500
mais,
euros.
Mais oui,
et qui étaient totalement.
Parce qu'il faut que ce soit cher pour que ce soit vrai.
Non, mais c'était totalement disproportionné par rapport aux
d'accord,
enjeux.
D'accord.
Donc,
d'accord.
J'ai envie de dire, vous avez été à minima sur ce sujet. Écoutez, vous avez le droit d'avoir votre position.
Bon.
Il faut que vous entendiez
monsieur,
une autre position parce que
monsieur,
si
monsieur,
vous aviez fait les mesures nécessaires, vous auriez levé le doute.
Monsieur, le doute, il n'avait pas besoin d'être levé. On ne le levait que pour vous. Parce qu'il n'y a que vous qui avez prétendu, avec deux personnes, d'ailleurs, qui sont dans une association locale, comme quoi c'est vous qui avez prétendu que le terrain était contaminé.
D'abord, ce n'est pas que nous. Je vous rappelle que ça s'appuyait sur une position aussi du sous-préfet et de l'ACRIRAD.
C'est pas parce que
vous allez donner les informations que vous les donnez de manière parcellaire.
S'il vous plaît, on arrête, parce que vu la façon dont on peut débattre avec vous, je ne pense pas que ça puisse apporter grand-chose au conseil municipal que de continuer cette discussion. En tous les cas, nous considérons que vous avez tenu des propos fallacieux et que vous avez menti devant le journaliste. Point. C'est notre avis et c'est comme ça. D'ailleurs, et on se demande même si on ne peut pas aller plus loin dans la démarche vis-à-vis des propos que vous avez tenus.
Bien, je passe la parole. Les propos que vous tenez ce soir sont quand même très clairs.
Ils sont très clairs. Ils sont très clairs. Oui. Je sais quelle responsabilité je prends en les tenant. Monsieur Delman va donc maintenant commencer à parler de choses beaucoup plus importantes qui pèsent sur les destinées de notre collectivité pour lesquelles l'équipe municipale et notamment Monsieur Delman avec les services juridiques ont travaillé depuis de nombreuses années, d'ailleurs depuis 2000 ans presque, quasiment.
Oui.
Allez, on y va.
Alors, mes chers collègues, j'ai mis effectivement, on a mis avec le service juridique sur table pour une meilleure compréhension de cette communication qui, je le sais bien, est assez rébarbative. On vous a mis le double de cette communication, puissiez la suivre, de façon le plus facilement possible. Ensuite, on vous a mis également un document intitulé « Contentieux du parking du marché Saint-Germain », historique de la procédure, et qui comporte des développements assez détaillés sur tout ce qui s'est passé au niveau de l'expertise, parce que c'est quand même assez compliqué à suivre. Le complément d'expertise a été obtenu en mai 2007, et il faut effectivement bien suivre ce qui s'est passé entre 2007 et le 12 mars 2013. Et le 12 mars 2013, nous avons eu un résultat avec une ordonnance du juge de la mise en état, qui est assez intéressante aussi, que vous avez également tous en copie. D'ailleurs, il y a un paragraphe que je reprendrai de l'ordonnance qui est assez symptomatique et que vous pourrez relire si vous ne l'avez pas trouvé. Je vous indique tout de suite à quelle page vous allez pouvoir le trouver. C'est à la page, en haut de la page 5 de l'ordonnance. C'est très intéressant. Je pense que le magistrat a bien suivi le dossier quand même. Donc, chers collègues, à titre liminaire, je me permets de vous rappeler qu'au cours de la précédente mandature, le service juridique de la commune a été confronté à plus de 19 millions d'euros de risques et de réclamations, 6 172 008 euros de dépenses utiles et 3 200 217 euros de manque à gagner pour le concessionnaire du stationnement payant, 556 000 euros de travaux à réaliser et 100 000 euros de pertes d'exploitation pour l'exploitant du bowling, 2 545 000 euros au titre du préjudice de la SCI Carnot, 6 655 307 euros de dommages à la suite de l'incendie du parking Saint-Germain, sans oublier la facture impayée de la société Union Travaux d'un montant de 179 871 euros, majoré de 82 042 euros d'intérêts moratoires et frais annexes, soit un coût total pour cette opération de 261 914 euros. L'ensemble de ces frais et réclamations a pu être limité à un versement au concessionnaire du stationnement payant de 3 371 629 euros, au règlement de 261 914 euros à la société Union Travaux et à celui de 250 000 euros à la SCI Carnot, sans oublier les arriérés de loyer du Stade sous la Lune au titre des années 1999, 2000 et 2001 qui s'élevaient à 152 815 euros. Le montant total de tous ces règlements s'élève à 4 036 358 euros. Au début de l'actuelle mandature, trois contentieux importants restaient en cours. Le Neugentel, le parking Saint-Germain et le stationnement. S'agissant du Neugentel, j'ai eu l'occasion, le 14 décembre 2011, de vous faire une communication très complète sur ce dossier. Je n'en rappellerai que l'essentiel. La société locataire de la ville a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 18 novembre 2009. À cette occasion, la commune a été amenée à effectuer une déclaration de créance pour un montant total de 626 276 euros, dont 198 857 euros à titre privilégié et 427 419 euros à titre chirographaire. Le tribunal de commerce de Créteil, le 12 octobre 2011, a examiné trois propositions de reprise. L'une a été déclarée irrecevable comme étant non conforme au texte en vigueur et l'autre est une autre insuffisante car le prix de reprise du fonds de commerce n'était que de 50 000 euros. La troisième est apparue la meilleure pour l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers du ministère public. Elle a donc été retenue et arrêtée par le tribunal de commerce. Le prix de rachat du fonds était de 550 000 euros et s'accompagnait de la reprise de l'intégralité du personnel de l'entreprise, soit 27 salariés. Cette proposition ne permettra pas de régler l'intégralité du passif de la société défaillante qui s'élevait à 1 096 497 euros et notamment la créance chirographaire de la ville, soit 427 419 euros. Afin de préserver les emplois existants et soutenir l'ensemble des activités économiques du centre nautique, dont le rôle est majeur pour le commerce de proximité dans le quartier du port, la commune était prête à revoir ses positions au plan judiciaire et à consentir des efforts financiers. D'autant que la commune a été classée le 10 juin 2010 ville touristique et que en raison de la position exceptionnelle que lui confère son port de plaisance et que cette classification place le Neugentel au cœur de son dispositif touristique. Un protocole transactionnel mettant fin aux procédures en cours avec la conclusion d'un nouveau bail était régularisé avec l'acquéreur du fonds, moyennant le versement par ce dernier d'une indemnité de 450 000 euros, payable sur la durée du bail, soit 9 ans, et un nouveau loyer en principal porté de 161 725 euros à 220 000 euros à compter du 1er janvier 2012. De plus, le nouvel exploitant s'est engagé à exploiter l'hôtel sous une enseigne 3 étoiles de type Best Western et à réaliser les indispensables travaux de ravalement et de rénovation de l'hôtel pour un montant estimé à 1 274 011 euros hors taxes. Ainsi, la commune devrait récupérer à court terme sa créance privilégiée de 198 857 euros et si elle a peu de chances de récupérer sa créance chirographaire de 427 419 euros, elle devrait percevoir l'indemnité transactionnelle de 450 000 euros et une augmentation de loyer de 530 000 euros, et ce sur 9 ans, soit au total 1 180 000 euros. Ce contentieux est donc définitivement terminé. Alors, monsieur le maire, je crois que vous avez une information à nous donner concernant l'enseigne Best Western.
Oui, en effet, j'ai ici sous les yeux une lettre de la direction du développement de Best Western qui confirme le fait que le conseil d'administration de Best Western a décidé d'affilier l'hôtel à sa marque de Best Western plus, qui est le meilleur niveau de label que cette chaîne peut avoir.
Alors, en ce qui concerne le parking du marché Saint-Germain, je vous rappelle que le 18 mai 2007, le tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la demande de la ville visant à un complément d'expertise. Il a désigné à nouveau l'expert initialement commis, auteur du rapport du 5 juillet 2000, afin de dire si l'usage de l'essence sans plomb avait une incidence sur les durites du véhicule incendié et le lien éventuel avec le sinistre. Le dit expert a fait valoir qu'il ne pouvait pas techniquement répondre lui-même à cette question et qu'il fallait lui adjoindre un autre expert. La désignation d'un second expert a eu lieu le 7 novembre 2008, mais celui-ci a refusé sa mission, estimant n'avoir pas vocation à se positionner en qualité d'expert, mais en tant qu'assistant technique. Un nouvel expert a donc été désigné en remplacement le 6 mars 2009. Cet expert a effectué sa mission dans des conditions à tout le moins surprenantes. En effet, il n'a pas réalisé les tests dont il avait été chargé et pour lesquels il avait été payé. Et il a rapidement conclu, alors que la question ne lui était pas posée, que,
le risque que la dégradation de la diurite due aux différents carburants sans plomb utilisés à l'époque soit à l'origine de l'incendie est quasiment nul. L'expert automobile auteur du rapport de juillet 2000 s'est empressé de reprendre cette conclusion et de déposer un rapport définitif le 4 février 2011. Cette situation était très défavorable à la ville, et ce, alors qu'elle avait produit une étude réalisée le 25 novembre 2010 par le laboratoire faisant autorité en matière de caoutchouc qui accréditait scientifiquement la thèse qu'elle soutenait. La ville a donc demandé une expertise complémentaire le 6 mai 2011. Une ordonnance a été rendue le 12 mars 2013 qui fait droit en totalité aux demandes de la commune et nomme un nouvel expert. Il a pour mission de réaliser la deuxième phase du complément d'expertise obtenu le 18 mai 2007, c'est-à-dire procéder aux analyses physico-chimiques permettant de contrôler concrètement la tenue en carburant sans plomb des durites du type équipant le véhicule Renault Clio impliqué dans l'incendie dans des conditions réelles de fonctionnement d'un véhicule à l'époque des faits. La réalisation de cette seconde phase devrait permettre de connaître la vérité sur l'origine du sinistre. Par ailleurs, il a été demandé qu'un point financier soit fait dans le cadre de ce contentieux. Une provision dédiée à ce contentieux de 4 152 776 euros était inscrite au budget communal 2004. Son calcul ressortait de la différence entre le montant des dommages estimé à 6 655 307 euros par un expert d'assuré désigné par la ville le 19 mai 2000 et la couverture des assurances souscrites par la ville en vigueur le 22 novembre 1998, plafonnée à 1 987 837 euros. Au cours de la procédure, nous avons découvert dans l'évaluation des dommages réalisée le 19 mai 2000 des distorsions entre le chiffrage des réclamations et celui des préjudices retenus. Nous avons donc chargé en novembre 2005 un autre expert d'assuré de reprendre le chiffrage des dommages réalisé le 19 mai 2000. Selon ce second expert, les dommages en lien de droit, c'est-à-dire causés à l'entité qui a permis au véhicule d'entrer dans le parking, présenteraient un risque maximum de 1 338 781 euros hors taxes pour une garantie d'assurance automobile en dehors de toute reconnaissance de responsabilité de la ville dans une éventuelle faute à l'origine du sinistre, de 457 347 euros, soit un découvert prévisible de garantie de 881 334 euros. S'agissant des dommages tenant du recours des tiers sans lien de droit, c'est-à-dire des voisins, ceci ne faisant l'objet de réparation que si une faute imputable à la ville était démontrée, cet expert a retenu un montant de 1 078 421 euros pour ces dommages, alors que la garantie en responsabilité civile de la ville, en cas de faute de celle-ci dans le registre d'un sinistre, s'élève à 1 067 143 euros. Il faut quand même préciser que les dommages déclarés à ce titre par les experts amiables des victimes du sinistre et figurant dans le chiffrage du 19 mai 2000 s'élèvent à 2 983 228 euros, soit un montant supérieur de 1 904 807 euros. Ces éléments, ainsi que l'expertise automobile initiée par la ville le 30 juin 2006, ont amené le conseil municipal le 5 avril 2007 à reprendre à concurrence de 1 554 357 euros, la provision faite pour ce contentieux et à rembourser d'autant nos concitoyens au moyen d'une baisse d'impôt de 9,10%. Si la responsabilité de la ville est écartée, le découvert prévisible de garantie ne sera que de 881 434 euros. Il sera alors possible de reprendre à concurrence de 2 221 985 euros, la provision dédiée à ce contentieux au budget 2013 pour un montant de 3 103 419 euros. S'agissant enfin du stationnement, je vous rappelle que par traité en date du 28 mars 1991, la ville a concédé le stationnement en voirie et en ouvrage dans la ville au fils de Madame Géraud. Dès les premières années, le concessionnaire s'est plaint de la politique suivie par la ville en matière de stationnement en voirie, en alléguant, entre autres, une absence de verbalisation et une gratuité accordée à certaines catégories socio-professionnelles. Le concessionnaire a formalisé officiellement le 1er avril 1998, par l'intermédiaire de son conseil, une première demande de réparation de l'intégralité du préjudice qui lui avait été causé par les manquements contractuels de la ville depuis l'entrée en vigueur de la convention. Cette demande a été suivie de longues discussions qui n'ont pas abouti en l'absence de chiffrage précis par le concessionnaire du préjudice allégué. Les choses sont restées en l'état jusqu'à ce que par lettre en date du 23 mars 2001, les fils de Madame Géraud attirent l'attention du nouveau maire sur la situation qu'il considérait dramatique des conditions économiques du service du stationnement payant, prétextant qu'il n'avait pas été possible pour eux d'obtenir de la municipalité sortante l'application des tarifs prévus contractuellement aux échéances déterminées par le traité de concession. Il faisait état de ce que le différentiel entre les recettes enregistrées par la concession et celles qu'aurait dû dégager le service n'avait fait que de s'aggraver considérablement et que ce différentiel cumulé approchait, selon eux, la somme de 4 573 470 euros pour la période comprise entre juin 1992 et la fin du mois de mars 2001. L'importance du manque à gagner réclamé et chiffré pour la première fois par le concessionnaire nécessitait que la nouvelle municipalité ait recours à un expert afin d'apprécier la situation en toute objectivité et engager des discussions. Dans cette perspective, la ville de Neugent a proposé au concessionnaire de faire examiner contradictoirement les comptes de la concession par un expert qualifié, KPMG, collectivité territoriale, afin d'apprécier les réclamations du concessionnaire. Cette proposition a été refusée par lui. Ce dernier a alors considéré que la demande de réparation de l'intégralité du préjudice qui lui aurait été causé par les manquements contractuels de la ville depuis l'entrée en vigueur de la convention, faite à la date du 1er avril 1998 et restée sans réponse, l'obligeait à porter le litige devant la juridiction administrative. À cette occasion, il entendait demander la résiliation du traité de concession aux torts et griefs de la ville. Dans l'attente de la décision, il demandait en outre la suspension du traité et la reprise par la ville des emprunts en cours. En mars 2002, les fils de Madame Géraud précisaient leur demande et réclamaient l'indemnisation du préjudice de 4 962 889 euros pour le stationnement en surface et 1 245 916 euros pour le stationnement en ouvrage, ainsi que la résiliation du traité aux torts et griefs de la ville, moyennant une indemnité de 32 660 728 euros. Dans le même temps, les fils de Madame Géraud sollicitaient en référé la condamnation de la ville de Neugent à leur payer la somme de 1 800 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'absence d'indexation des tarifs de stationnement de surface et d'actualisation prévus au traité de concession pour les 1er janvier 1996 et 1er janvier 2000. Au terme d'une ordonnance de référé en date du 21 juin 2002, rendue par le tribunal administratif de Melun, le juge des référés a constaté la nullité du traité de concession et dit qu'en conséquence, il n'avait pu faire naître d'obligation à la charge des parties. Cependant, le tribunal a alloué au fils de Madame Géraud la provision demandée à valoir sur leurs dépenses qui ont été utiles à la commune de Neugent, c'est-à-dire les investissements réalisés effectivement par le concessionnaire pour construire les ouvrages et mettre en place le système de stationnement. Sur appel de la ville, la Cour administrative d'appel de Paris, le 18 novembre 2003, a ramené cette provision de 1 800 000 euros à 1 200 000 euros. En parallèle, la procédure au fond s'est poursuivie devant le tribunal administratif. Une expertise judiciaire a débuté le 14 novembre 2002 et l'expert a déposé son rapport définitif le 10 septembre 2004, au terme duquel il évaluait l'ensemble des dépenses utiles à 6 356 809 euros et le manque à gagner éventuel de 124 074 euros à 3 200 417 euros. Les consorts Auguste saisissaient à nouveau le juge des référés et obtenaient le paiement d'une seconde provision de 4 865 000 euros. Mais, dans le cadre de la procédure au fond, et à la suite du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, le tribunal administratif de Melun, le 23 mars 2006, fixait l'indemnité à laquelle pouvaient prétendre les consorts Auguste en réparation de leur préjudice à la somme de 2 669 517 euros, majorée des intérêts capitalisés à compter du 1er avril 1998, soit au total 3 371 629 euros. Du même coup, les consorts Auguste restituaient à la commune la somme de 2 692 695 euros. Sur appel du concessionnaire, la Cour administrative d'appel de Paris, le 2 mars 2009, ramenait l'indemnité à verser au concessionnaire de 3 371 629 euros à 2 779 566 euros. La ville a donc été remboursée de la différence. Cependant, le 19 janvier 2011, le Conseil d'État a annulé la décision de la Cour administrative d'appel de Paris et renvoyé l'affaire devant celle-ci pour qu'il soit statué à nouveau sur l'ensemble des demandes résultant de la nullité du traité de concession. Du même coup, la ville a restitué au concessionnaire la somme qu'il lui avait versée à la suite de l'arrêt de la Cour administrative d'appel du 2 mars 2009. L'affaire est toujours en cours d'instruction. Reprenant l'ensemble de leurs calculs et projections exagérées, les consorts Auguste sollicitent le paiement de la somme globale, toutes causes confondues, de 21 538 075 euros, mais la défense de la ville oppose la prescription quadriennale à l'ensemble des demandes formulées par les consorts Auguste et le fait qu'ils avaient cessé toute exploitation du stationnement payant dès janvier 2002. Elle reconnaît ne lui devoir qu'une indemnité de 650 000 euros. L'issue de cette procédure, bien évidemment, reste très incertaine. Au terme de la présente communication, je tiens à partager ces résultats avec le service juridique de la ville, les avocats de la commune et la municipalité, et en associant l'ensemble des membres du conseil municipal à dédier ces résultats à tous nos concitoyens. Nous continuerons à défendre avec énergie et la plus grande détermination les intérêts financiers de la commune et des Nogentais. Je vous remercie de votre attention.
Merci. Donc c'est bien parce que ce document est assez exhaustif que nous avons souhaité que vous l'ayez sur table pour que vous puissiez suivre la lecture qu'en a donnée Yves Delman. Maintenant, si vous avez des questions à poser sur ce sujet...
Voilà, je voulais simplement vous renvoyer, avant d'en terminer, et ce sera le dernier point en ce qui me concerne, à la page 5 de l'ordonnance. Et là, vous pourrez voir à la page 5 de l'ordonnance, comme je disais tout à l'heure, qui a été rendue très récemment, c'est le 12 mars 2013, le deuxième paragraphe. Néanmoins, compte tenu de l'importance du litige sur le plan financier pour la commune de Nogent-sur-Marne, du fait que les deux phases de l'expertise étaient bien envisagées et que la ville de Nogent-sur-Marne a d'ailleurs consigné en ce sens une somme de 6 000 euros le 17 novembre 2009, et compte tenu enfin des réserves émises par le CETIM qui doivent être prises en considération, il sera fait droit à la demande présentée aux fins d'éclairer totalement le tribunal sur les causes de l'incendie survenu le 24 novembre 1998. Voilà, j'en ai terminé.
Bien, y a-t-il des questions, M. Arasi ?
Oui, merci pour cette présentation. C'était importante. Une première remarque concernant le Nogentel, quand même, qui, à mon avis, puisqu'on est dans la transparence des éléments juridiques, on peut dire quand même qu'il y a, il y a en ce moment une action en cours au tribunal administratif qui vise à demander l'annulation du bail et l'annulation de la délibération. C'est un élément factuel. Hein. Ensuite, concernant
qui,
les...
Oui,
alors, excusez-moi, oui, je crois que vous avez raison, puisque j'ai fait cette remarque qui a été présentée par moi,
oui, exactement.
Marc Arasi.
C'est voilà. Ça. Voilà. Autant rendre à Marc Arasi ce qui était à Marc Arasi.
Comme c'était moi qui m'exprimais, ça paraissait assez sous-entendu.
Titre indicatif, nous sommes quand même un peu... informé de cette...
Non, c'est pour ça. Concernant un point, à un moment donné de l'information que vous nous faites, Yves, vous dites la commune a plus de 19 millions d'euros de risques. Vous commencez...
C'était à l'époque. Hein,
voilà,
à l'époque,
alors peut-être
hein,
le
dans la mandature précédente.
Voilà, peut-être le préciser parce que ensuite on arrive sur la fin de la présentation sur des montants uniquement pour le stationnement de l'ordre de 21 millions.
Non, mais ça, c'est à la fin, ça. Ça, c'est aujourd'hui, ça. Mais monsieur Arasi, reprenez, vous avez la communication sous les yeux, et c'est bien marqué de vous rappeler qu'au cours de la précédente mandature... Hein,
Excusez-moi.
C'est écrit, hein. C'est comme le porte-salut, c'est écrit dessus. Hein.
C'est pour ça que j'aimerais bien pouvoir finir mon propos, comme ça vous aurez l'ensemble de la réflexion.
Oui, d'accord, parce que vous n'avez pas compris.
Voilà, donc j'avais demandé, et j'aimerais bien avoir à l'appui justement un tableau synthétique où on pourrait reprendre justement les sommes versées, qui redonneraient les sommes versées, les sommes provisionnées, donc par contentieux, les sommes qui sont demandées, donc qui sont aujourd'hui encore en... Et en même temps, la provision d'impôt qu'on a demandé aux Nogentais depuis 2004, pour voir effectivement et comparer l'ensemble de ces sommes. Donc c'est une demande que j'avais faite antérieurement.
Quelle est votre question ?
Voilà, c'est de demander à avoir un tableau synthétique qui reprend tous ces éléments et qui nous permettent et qui permettront aux Nogentais de visualiser ce qui leur a été
vous
dit à l'époque.
Vous avez le loisir de faire votre tableau synthétique vous-même ?
Ben écoutez,
nous, c'est comme ça qu'on voulait vous le présenter aujourd'hui.
Oui, c'est moins lisible pour tout le monde. Hein. C'est mon propos. Hein.
Ah bon ? Ben écoutez, concernant l'évolution des taux et produits des taxes, notamment ménages, depuis 1995 jusqu'à 2013, nous le produirons. Il est quasiment fait et nous le transmettrons. Pour l'instant, la communication, M. Arazi, c'était une communication sur les contentieux, d'accord ? Et nous avons dit clairement comment le processus s'est déroulé et quels étaient les risques au fur et à mesure en fonction des contentieux eux-mêmes. Poser la question autrement et nous répondrons sur l'évolution des taux et produits des taxes ménages depuis 1995 jusqu'à 2013 et nous vous le donnerons. Voilà. Et on le fera en communication de ce genre. Parce qu'autant le faire devant le public qui assiste au conseil municipal. Il n'y a pas d'autres questions ? Alors pour le tableau XL, vous le ferez. On vous a donné tous les éléments pour remplir les colonnes. Monsieur Gilles.
Non, ce n'est pas pour remplir les colonnes. Je voulais connaître, moi, la motivation du Conseil d'État dans son arrêt du 19 janvier 2011. Sur quel fondement il s'est basé ?
En fait, il y a une somme de 3 millions d'euros qui figurait en charge et qui aurait dû figurer en investissement, qui aurait peut-être dû classer comme dépense utile. Et à partir de là, effectivement, il y a le risque de remonter à la valeur que l'expert avait trouvée lors de ces opérations d'expertise de près de 6 millions d'euros. Et la valeur également de la provision qui avait été demandée. Mais ce que je pense, c'est que la position de la ville s'est renforcée en raison d'un changement de jurisprudence sur le problème de la prescription quadriennale, qui permettra de refuser de régler toutes les dépenses qui sont, comme on le sait tous, antérieures de plus de 4 ans à la demande. Et je crois que là, peut-être qu'on aura un peu plus de chance, après en avoir eu quand même pas mal, puisque... On est monté jusqu'à 6 millions de provisions, 6 millions 50 000 euros. On est redescendu à pratiquement à la louche 3 millions 3. On est redescendu à 2 millions 7 devant la Cour administrative d'appel de Paris. Puis on est remonté à cause de cette décision du Conseil d'État de janvier 2011 à 3 millions 3. Et on est devant la même Cour administrative d'appel. Donc on va voir ce qui va sortir du chapeau. Parce que bien évidemment, les avocats, ils ne sont pas capables de lire dans une boule de cristal quant au résultat des procédures qu'il mène, hein. C'est évident. Donc c'est une issue qui est très incertaine, mais on reste très déterminé et très mobilisé, et quand même, on espère pouvoir faire le maximum pour plutôt descendre que de remonter vers les 6 millions d'euros. Mais pour que ça soit bien transparent, il était normal qu'on vous présente les choses objectivement.
Y a-t-il d'autres demandes de précision ? Écoutez, ce document, de toute façon, vous l'avez. Nous le mettrons dans le compte-rendu du Conseil municipal au titre des communications. Et puis, concernant l'évolution des taxes et autres taux et produits de ces taxes, nous pourrons vous faire une communication complète de 1995 à 2013. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer donc... À l'ordre du jour, et M. Pasternak va vous présenter l'adhésion de la ville à l'Association des villes pour la propreté urbaine. M. Pasternak.
Merci. Donc l'Association des villes pour la propreté urbaine, l'AFPU, est née à la suite de rencontres entre collectivités initiées par la ville de Versailles sur le thème de la propreté urbaine. Le dépôt de statut a été réalisé en préfecture des Yvelines au mois de décembre 2010. L'AFPU a débuté ses activités en janvier 2011. Ces rencontres qui ont conduit à la création de l'AFPU ont toujours regroupé des élus et des agents territoriaux. Cette mixité permet d'assurer une approche globale de la propreté urbaine. Le but de la démarche étant de permettre aux villes d'évaluer l'état de propreté de leur territoire selon une grille d'indicateurs objectifs, de partager les progrès constatés avec les habitants, d'organiser des échanges d'expériences entre collectivités et de bénéficier des campagnes de communication initiées par l'association. Les principaux objectifs pour les villes adhérentes de l'AFPU sont de s'évaluer. La ville se dote d'un moyen de mesurer le plus objectivement possible le niveau de propreté de son espace public, et ces éléments de mesure font l'objet d'une validation à valeur nationale reconnue. S'améliorer, chaque collectivité adhérente s'inscrit dans une volonté d'amélioration du niveau de propreté de l'espace public. Se situer, les efforts accomplis pour obtenir une progression peuvent se comparer et leur analyse montrera par quels moyens on peut être plus performant. Communiquer enfin, adhérer à l'AFPU traduit la volonté politique en faveur d'une meilleure propreté. Elle confère à la collectivité la capacité de pouvoir afficher cet engagement par une communication spécifique. Concernant le financement de l'association, le projet de statut prévoit que l'association s'autofinance sans occulter la recherche de financement public et que les frais d'adhésion sont liés à la taille de la collectivité. Ainsi, l'adhésion de la ville de Nogent-sur-Marne sera de 900 euros par an.
J'ajouterai ce qui était sous-jacent, bien sûr, lorsque M. Pasternak a évoqué l'évaluation la plus objective possible. C'est un des éléments importants pour mobiliser le personnel communal. Il n'y a rien de plus subjectif que de dire une ville est propre, une ville n'est pas propre. Donc la progression de la performance du personnel communal sera grâce à notre accès à un certain nombre d'indices qui permettent de mesurer la qualité de la propreté d'une ville, ça leur permettra d'avoir des objectifs plus concrets et plus précis et de travailler à l'amélioration de la situation que nous pouvons constater. Donc cette validation, elle a un intérêt, c'est qu'elle peut se comparer à d'autres collectivités. Monsieur Arzi.
Oui, je suis favorable à cette adhésion, il n'y a pas de souci. Je voulais juste rebondir sur ce que vous venez de dire pour faire une remarque que j'ai faite à plusieurs reprises ici en Conseil, c'est que la propreté, ça doit être équivalent dans tous les quartiers de la ville. Et là aussi, bien sûr, il y a peut-être des éléments de subjectivité, mais certains quartiers aujourd'hui sont, entre guillemets, mieux traités que d'autres. Donc, je le redis, nous devons être attentifs, et en particulier un quartier que je trouve systématiquement moins propre que les autres, c'est le quartier des Maréchaux, des quartiers nord. Et donc, je souhaiterais redire que c'est une demande récurrente depuis le début de mandat. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de vous faire des remarques sur la rubine de Perreuse, et aujourd'hui je peux vous donner acte vraiment que le sujet a été traité. Je crois que les riverains aujourd'hui ont vu une différence. Mais là encore, il me semble que ce n'est pas subjectif de dire qu'on doit faire un effort et que ça doit être homogène dans l'ensemble des quartiers de la ville.
Enfin, la rue Boïne des Perreuses n'est pas au Maréchaux. Bien. Non, mais on prend acte de votre remarque. Je ne dirais pas pourquoi il y a des quartiers qui sont plus propres que d'autres. Il peut y avoir aussi des quartiers qui sont plus perturbés que d'autres. Bien, y a-t-il d'autres remarques? Il n'y en a pas. Pas d'abstention, pas de vote contre. Merci. Alors, Monsieur Fontaine, l'approbation de la modification simplifiée du POS.
La procédure de modification simplifiée a été prévue à l'article L123-13, alinéa 7 du Code de l'urbanisme. Elle permet de rectifier une erreur matérielle ou de modifier des éléments mineurs du plan d'occupation des sols, listé à l'article R123-20 du Code de l'urbanisme. Le présent projet de modification simplifiée poursuit donc deux objectifs répondant aux exigences légales. La suppression de deux emplacements réservés figurant en poste, approuvés le 7 février 2001 et mis en révision le 5 juillet 2010. La procédure a été lancée par délibération 1289 du Conseil municipal du 19 décembre 2012. Le projet a ensuite fait l'objet d'une mise à disposition du public initialement prévue du 14 janvier au 15 février. Elle a été prolongée jusqu'au 28 février 2013, c'est-à-dire en totalité 6 semaines. À cette occasion, plusieurs personnes se sont exprimées dans le registre. Leurs observations ont été reprises et annexées à la délibération. Compte tenu de l'évolution du territoire, il apparaît en effet nécessaire de supprimer deux emplacements réservés. Emplacement réservé numéro 1, cet emplacement réservé d'une superficie de 600 m² est situé à proximité du square Walter et sa désignation actuelle est la suivante, aménagement, voirie, espace vert. Cependant, depuis son inscription, la situation a évolué. La commune a acquis une grande partie de la maîtrise foncière de l'île en question. Des logements d'urgence ont été créés. Seul subsiste un immeuble collectif et une maison dont l'acquisition pour démolition en vue de la réalisation de l'objet de l'emplacement réservé n'est pas réaliste compte tenu des contraintes et des besoins actuels et futurs en termes de logement. De plus, cette acquisition pourrait remettre en cause la viabilité économique de l'aménagement initialement prévu. L'autre emplacement est l'emplacement réservé numéro 7. Cet emplacement réservé d'une superficie de 1500 m² est situé 162 Grande Rue Charles de Gaulle et sa désignation actuelle est la suivante, équipement social lié à l'enfance. Le terrain sur lequel est inscrit l'emplacement réservé est disproportionné eu égard notamment à l'objet auquel il est destiné. De plus, la crèche des lutins de 60 berceaux a été réalisée dans ce quartier, très très proche, sur une emprise appartenant déjà à la commune et de taille beaucoup plus raisonnable. Il vous est donc proposé d'approuver la modification simplifiée du POS et les membres du conseil municipal sont amenés à délibérer sur ce projet.
Y a-t-il des questions ? Monsieur...
Non, monsieur le maire, lorsque vous aviez lancé cette opération, j'avais fait remarquer qu'au moment où on est en train d'étudier le PLU avec nécessité de faire des emplacements réservés, c'était sûrement pas le bon moment pour en supprimer. Mais ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'en plus, vous aviez déjà anticipé sur la décision du conseil municipal, puisque vous nous avez présenté ça en décembre 2012, et qu'il y a eu une transaction au cours de l'été, et que vous avez renoncé au droit de préemption le 6 août 2012. Donc vous aviez déjà décidé en août 2012 de l'issue que vous nous faites voter aujourd'hui. Donc là, je voterai contre deux fois plus, sachant qu'effectivement, le conseil municipal est complètement pris pour rien du tout. C'est-à-dire, en fait, vous nous faites régulariser une décision que vous aviez déjà prise à l'été 2012.
Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. M'excusez, mais...
Je fais allusion à la transaction en faveur d'une société immobilière pour la construction d'un programme immobilier et pour lequel vous avez donné votre autorisation le 6 août 2012. Voilà, donc, et qui a été entériné par un acte notarié le 29 août 2012.
C'est quoi ?
Voilà.
C'est quoi ce truc-là ? Monsieur Bonin, je vois pas de quoi vous parler, vous m'excusez. Précisez, monsieur Gilles, puisque vous avez des éléments, soyez plus précis.
La transaction, si ça vous intéresse. Hein, donc, si ça vous intéresse, le prix de la transaction, il s'est fait à 1 196 000.
L'adresse.
Voilà.
À quel endroit ?
Eh ben sur l'emplacement réservé numéro 7.
Sur l'emplacement réservé numéro 7 ?
Donc vous avez renoncé effectivement au droit de préemption, donc vous aviez bien pris acte de la suppression de l'emplacement réservé
du tout.
Dès le mois d'août 2012. Voilà.
Mais...
Et vous nous le faites valider aujourd'hui en avril 2013.
Écoutez, vous apprenez cela et je peux vous dire que on va rechercher ce que vous êtes en train de nous affirmer. La ville n'a jamais renoncé à un droit de préemption, puisque là, ça n'est pas un droit de préemption, c'est un emplacement réservé. Et aujourd'hui, s'il avait fallu réagir, c'est au 162 Grande Rue. Non, attendez, c'est au 162 Grande Rue en tant que tel. Oui. Et là, il y a eu un refus de la... Ah bon, une transaction, c'est nouveau. Bah, écoutez, vous m'apprenez. Vous voyez, il y a des choses qui se passent dans la ville. Non, c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Non, mais vous donnez-moi les éléments et je répondrai à l'ensemble du conseil municipal. Mais alors là, cela me surprend vraiment plus que vous ne le pensez, parce que ça n'est pas possible. Tout le système qui vous a été présenté en conseil municipal était destiné justement à se prémunir vis-à-vis du propriétaire du 162 Grande Rue et de l'immeuble qui est juste situé à côté, afin qu'il ne nous impose pas, vu la date à laquelle il est devenu propriétaire, qu'il ne nous impose pas de l'achat de sa parcelle pour réalisation de l'objet de l'emplacement réservé qui était équipement social lié à l'enfance. Alors je ne vois pas pourquoi nous aurions favorisé quoi que ce soit sur ce terrain alors que nous étions justement dans une situation plutôt de défensive que d'une situation de vouloir permettre une évolution de du foncier de ce propriétaire. Monsieur Arazi.
Oui, comme on s'en est parlé en commission des finances, je vous ai écrit, hein, puisque j'avais pas reçu les éléments suite à la commission des finances. Et a priori, je n'ai pas trouvé sur table aucun des éléments que je vous ai demandé. Donc je voudrais que le conseil municipal prenne acte que les éléments qui me semblaient importants pour qu'on prenne cette décision sur justement la réserve numéro 7 ne sont pas disponibles à l'ensemble des conseillers municipaux. Pour rendre compréhensible cela, je vais relire ce que je vous ai écrit. Par ailleurs, et comme je vous l'ai demandé oralement lors de la commission des finances, je souhaite avoir confirmation que le propriétaire du terrain concerné par la levée de la réserve foncière du poste est bien le même que celui qui est loué à votre association, un local ayant servi à la majorité municipale de permanence. Si oui, je vous serais gré de porter à notre connaissance le nom du ou des propriétaires, personne morale ou physique, tous les éléments communicables sur le projet immobilier en cours, et la preuve, à mon avis, qu'il y a nécessité d'avoir communication, je rebondis sur ce que vient de dire mon collègue Michel Gilles, la durée de la location et le prix consenti, ainsi qu'une copie du bail, les statuts de votre association, ainsi que les noms des représentants légaux sur la période concernée.
Concernant le président de l'association.
Non, je pense qu'on est là devant
vous
une nécessité importante.
Vous êtes sérieux,
monsieur Arazi? Je suis extrêmement sérieux.
Je ne répondrai pas, monsieur Arazi,
alors,
à ce type de questions, car vous n'avez pas qualité pour vous intéresser à des situations qui relèvent de
l'ordre
privé.
Excusez-moi, le propriétaire est bien donc le même que celui qui louait le local
et
que
alors,
vous aviez.
Et alors?
D'accord. Donc, il y a effectivement
vous
une
avez
notion
vu que d'autres louent le
potentiel de conflit d'intérêts.
Ah oui.
Voilà. Donc,
alors là,
il y a une notion.
Voyez,
donc, si vous ne voulez pas donner d'éléments d'information, on notera et tout le monde peut noter qu'il peut y avoir... Attendez, on est en plein dans les affaires, on est en plein dans les problématiques de transparence, et aujourd'hui, vous nous dites, moi, je ne fais pas la transparence. Alors moi, je vous dis, vous ne voulez peut-être pas la faire, mais vous devez la faire.
Bien sûr.
Parce que pour prendre cette décision, donc moi, je vous engage, je vous demande de
sursoir votre document à l'ensemble du conseil municipal, vous n'allez pas nous faire... ce soir, une grande démonstration de transparence.
Non, mais
vous voulez que je vous pose des questions personnelles, monsieur Arazi?
Mais attendez, on est en train de parler
à vous poser.
Excusez-moi, on est en train de parler.
Monsieur Arazi.
Monsieur le maire, on est en train de parler de la réserve.
Vous me laissez répondre?
Oui, mais il serait bon que vous me laissiez et de vous ne m'interrompiez pas quand j'ai
Vous ne pensez pas que vous avez dit tout ce qu'il fallait dire?
Non, je n'ai pas dit tout ce que j'avais dit.
Alors dépêchez-vous de finir.
Voilà. Donc
dépêchez-vous de finir.
Non, mais monsieur le maire, soyez dans la correction.
C'est vous.
Non, mais c'est pas un ordre et c'est pas combinatoire. Hein.
La correction, monsieur Arazi, c'est
la
quand
correction
on invite une société à une réunion que monsieur Arazi traite les personnes que nous avons invitées de menteurs.
voyez, ça, c'est la correction de base. Vous savez vous comporter en public et en société d'une façon particulière, Monsieur Arazi.
Seulement, oui, je n'admets pas.
Les questions que vous posez sur les autres, moi, je vais vous en poser sur vous.
Mais écoutez, monsieur le maire, mais attendez, on est où là? Vous voulez faire de l'inquisition? On est.
Et alors,
non, mais attendez,
que
c'est
faites-vous
quoi
là?
Non, non, mais attendez,
que faites-vous?
Je suis en train de gérer une situation.
Non, mais que faites-vous? Que faites-vous
mais
ce soir?
Je vous dis exactement.
C'est l'inquisition ou quoi?
Attendez.
Vous savez, nous ne sommes pas en 1941 ou 42 là en ce moment, hein. On va pas aller regarder.
Attendez,
tout ce qui se passe chez le voisin.
Attendez, vous suggérez qu'on fait quoi et qui fait quoi? Attendez, là, vous tenez des propos depuis le début de ce conseil municipal qui, à mon avis, sont véritablement limites.
Ah, ah oui, d'accord.
Vous savez, le point Godwin, hein, quand tout d'un coup, on ramène tout à la notion de nazisme,
41-42.
Hein. Alors, je vous renvoie au point Godwin.
Mais qu'est-ce que fait le modérateur? Le modérateur intervient, je crois qu'il faut quand même que chacun se souvienne qu'on est en séance publique et que vous fassiez tout ça. Attention à ce qui se dit, quoi, parce que il faut être raisonnable.
Bien.
Bien, je peux finir.
Vous concluez.
Merci. Donc, je vous demande de bien vouloir sursoir à cette décision. Le cas échéant, si vous ne souhaitez pas, au minimum, je pense que vous et éventuellement les gens qui étaient mandataires de cette association, ou responsables de cette association, ne peuvent pas prendre part au vote
mais
sur cette
monsieur,
décision.
Vous donc, avez comme je ne sais pas qui, droit qui pour, était, vous, pour poser des questions.
Non, mais je vous le suggère.
Mais vous n'avez aucun droit.
Mais attendez, vous êtes dans une
en
situation.
En qualité de quoi vous devez poser une question sur votre voisin pour savoir s'il paye son loyer.
Le principe,
à qui il
le
paye,
principe des conflits d'intérêts.
C'est inimaginable.
En ce moment, le problème des conflits d'intérêts est oui. au centre de ce qui préoccupe ben nos concitoyens.
Vais. Mais vous y
donc,
êtes aussi, vous.
Si, attendez, c'est un fait.
Vous êtes aussi. Dans
attendez, ce c'est un fait. Vous avez loué ce local. Votre association a loué ce local.
L'association.
Aujourd'hui,
l'association a loué
oui,
un local.
Oui, absolument. Et aujourd'hui,
c'est pas votre
le propriétaire donc bénéficie de cette démarche que vous expliquez à votre façon. C'est votre droit. Mais nous, ce que je veux savoir, c'est tous ces éléments-là. Vous dites qu'on n'a pas le droit de les avoir, dont acte. Mais moi, oui. je vous dis, on a le droit de les avoir en tant que conseiller municipal, et on fera en sorte de les avoir, et si c'est nécessaire, de vous les demander par d'autres voies. C'est
voilà.
Tout.
Alors, tout d'abord, Monsieur Arazi, je pense que je ne fais pas partie, et je ne ferai jamais partie, de celles et ceux qui font du striptease permanent sur leur façon de gérer leurs affaires personnelles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc les informations que vous me demandez, d'abord, je ne suis pas président de cette association, d'abord, donc ce n'est pas à moi qu'il faut la poser, la question, c'est au président de l'association. Deuxièmement, avant l'utilisation par cette association de ce local, il y avait un autre locataire qui est parti. Ensuite, il y en a un nouveau qui est toujours là. Alors, si c'est pour libérer le local que l'association dont vous parlez est partie, vous voyez, c'est malvenu puisque le local a été loué tout de suite après le départ de l'association en question. Donc, je vous conseille d'écrire au président de l'association et de lui poser toutes ces questions. Je ne suis pas, moi, responsable de cette association. Je ne suis même pas au conseil d'administration de l'association. Donc, je ne vois pas en quoi vous pouvez venir me poser des questions de ce genre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette modification simplifiée du poste est destinée à faire en sorte que le propriétaire, qui est propriétaire, on vous l'a dit, depuis quand même un certain nombre d'années, hein, puisque il est propriétaire, je crois, depuis 2009, je crois. Non, c'est pas ça ? 2005, oui, 2005. Avec un emplacement réservé. Dès l'instant où il a sûrement un projet sur ce terrain, dès l'instant où il veut exercer son droit, il est tenu, il est en droit, pardon, de demander à la ville d'exercer sa préemption sur son terrain. Bien. Eh bien, nous avons considéré qu'il ne fallait pas se laisser piéger par cela, et nous ne voulons pas acheter ce terrain, c'est clair et net. 2005. Hein, il est propriétaire depuis 2005. Il porte ce terrain depuis 2005. Nous ne voulons pas acheter ce terrain pour la bonne raison qui a été expliquée. D'ailleurs, je ne vais pas reprendre la délibération. Les raisons que vous a indiquées Jean-René Fontaine. Voilà la raison. Elle est là, elle n'est pas ailleurs. Bien. Le deuxième point, c'est que, en ce qui concerne ce terrain, le propriétaire a été mis en demeure, je ne sais plus à quelle date, mais il y a 2-3 ans, pour démolir deux bâtiments qui posaient problème, notamment qui posaient problème à la fois à la banque située à côté et aussi à une propriété qui donne sur la rue de l'Armistice, dans le jardin de laquelle une maman garde des enfants et était particulièrement inquiète des morceaux de toiture qui tombaient dans sa propriété. Donc on a demandé à ce propriétaire de démolir, alors qu'en fait il n'avait pas à le faire uniquement pour ses besoins exprimés localement. En ce qui concerne le lien entre l'association dont vous parlez et ce propriétaire, il est du même niveau que le lien entre ce propriétaire et les locataires qui lui ont précédé et qui lui ont succédé. À partir de là, vous faites une démarche auprès de l'association, ils verront s'ils doivent vous répondre et de quelle façon, mais en tous les cas, ça n'est pas à moi de leur transmettre votre demande. Jusqu'à preuve du contraire, vous avez la possibilité d'aller au niveau de la préfecture pour voir la composition du bureau, savoir qui est le président, et vous pourrez demander toutes ces informations-là. En ce qui concerne le reste, je pense que vous êtes un peu gonflé quand même pour vous intéresser à ce genre de problème à caractère privé, parce que, jusqu'à preuve du contraire, vous pourriez vous intéresser à d'autres choses, et je vous en ferai la liste, parce que si vous êtes en peine de chercher des problèmes de transparence, je pourrais vous donner des exemples précis et pour lesquels je ne suis jamais intervenu, parce que c'est pas mon style à moi que d'aller chercher dans les corbeilles à papier ceux qui traînent ou dans les caniveaux ceux qui traînent.
Est-ce voilà. que je dois prendre ça comme une menace ?
Non.
Non, mais attendez, ça a tout l'air d'une menace et sachez que ça ne m'impressionne pas.
Hein. Mais moi, je ne cherche pas à vous impressionner.
Non, mais attendez, je tiens à vous le dire.
Nous passons à une autre question. Hein. C'est fini.
Et en vous regardant droit dans les yeux.
Oui. Voilà. Oui. J'ai du mal à vous regarder droit dans les yeux. Bien, qui d'autre voulait prendre la parole ? Pardon, Madame Nataf.
Je voulais simplement rappeler à Monsieur Haradi que l'association en question est une association loi 1901 et que seuls les adhérents de l'association ont le droit de demander des comptes à son administration. Les autres, ça ne les regarde pas. Donc, il peut s'adresser au président. Le président réglera le problème avec le conseil d'administration.
Cette association n'est pas subventionnée, bien sûr.
Bien évidemment pas.
Il y a d'autres questions ? Il n'y a pas d'autres questions ? Bien, alors moi, je voulais vous donner un élément concernant cette délibération. Compte tenu du délai, que la mise en œuvre de cette délibération, si elle était votée, prendrait, et je reviens à ce que disait M. Gilles tout à l'heure, compte tenu du délai, y compris en étant plus précis encore sur le délai de 2 mois à compter de la publication, de sa notification, etc., Et compte tenu aussi de l'avancée progressive de l'élaboration du PLU, ce que j'ai souhaité avec les adjoints chargés du PLU et de l'urbanisme, c'est pour vous rassurer d'ajouter à la délibération à la fin de l'article 1er, approuve la modification simplifiée du plan d'occupation des sols telle qu'elle résulte du dossier annexé à la présente délibération. Sa mise en œuvre interviendra lors de l'adoption du PLU. Donc voilà ce qui est demandé d'ajouter à cette délibération pour que, si madame, parce que d'ici là, dès l'instant où il y a une délibération avec une date de mise en œuvre, le propriétaire ne peut pas nous demander l'achat de ce terrain pour une seule et bonne raison, c'est que le processus a été voté et avec une date exécutoire. Nous l'avons vérifié et par conséquent, cela nous permet de fonctionner d'ici là dans des conditions un peu plus confortables, puisque... Comment ? Oui, mais aujourd'hui, on ne peut pas. Le PLU n'est pas assez avancé pour qu'on puisse revendiquer un sursis à statuer. Nous pourrons le faire une fois le PADD voté avec le projet de parcellaire. Donc voilà ce qui est proposé aujourd'hui au Conseil municipal et que je souhaite proposer à votre vote. La mise en œuvre de cette délibération interviendra lors de l'adoption du PLU. Je ne mets pas de date, puisque l'adoption du PLU peut changer, peut être fluctuante d'un mois à l'autre. Voilà. Bien. Comment ? C'est du tripatouillage ? Non, mais c'est... D'accord. Mais en tous les cas, c'est une façon à la fois d'écouter et en même temps de respecter les raisons pour lesquelles nous avons lancé cette modification simplifiée. Bien. Oui.
Le micro.
Vas-y.
Si la propriétaire est là depuis 2005, comment ça se fait que ça se déclenche là, maintenant ?
C'est pas maintenant, madame. C'est depuis plusieurs mois que nous réfléchissons à ce dossier.
Il y a 6 mois.
Il se trouve que le propriétaire avait acheté l'immeuble qui est à côté et qu'il vient de le revendre pour envisager un projet sur son terrain. Il a pris le contact avec la mairie. Comment ?
Vous dites qu'il a acheté...
Le terrain d'à côté aussi. Il était propriétaire de l'immeuble au-dessus de la pharmacie.
Oui. Hein ?
Donc il l'a revendu il y a quelques mois,
l'année dernière ?
Non. Etc. Et aujourd'hui, il a l'intention de faire une démarche auprès de la ville en disant, moi maintenant... J'ai assez attendu, je veux avoir une décision claire de la ville vis-à-vis de la destination de mon terrain. Et par conséquent, nous ne voulions pas attendre trop longtemps pour lui faire savoir que l'emplacement réservé serait levé parce que nous n'avons pas besoin de ce terrain. Et on vous a expliqué pourquoi nous n'avons pas besoin de ce terrain. Donc aujourd'hui, je propose qu'on ait une décision, je dirais, qui permet de prioriser l'aspect non-préemption et en même temps de rendre exécutoire la levée de l'emplacement réservé le jour, lors de l'adoption du PLU. Voilà. Bien. Alors, je voudrais mettre au vote cette modification de la délibération. Y a-t-il des oppositions ? À cette délibération, même modifiée, telle que je viens de vous la présenter. Bien. Quatre votes contre. Abstention. Une abstention. Deux. Comment ? Deux abstentions. Deux.
J'ai juste une question, parce que je ne suis pas sûre de bien comprendre le raisonnement. Avec la petite phrase qu'on rajoute à la fin, en fait, on renvoie au plus qui sera adopté. Mais rien ne dit que quand on adoptera le plus, on entérinera ça, puisqu'on pourra revenir dessus. Donc je ne comprends pas la logique, je suis désolée.
Sa mise en œuvre interviendra lors de l'adoption du PLU. Autrement dit, cette délibération, elle est actée. Hein ? C'est pas intégré dans le PLU. C'est une délibération que nous mettrons en œuvre au moment du PLU, c'est tout. Voilà. Enfin, écoutez, on a vérifié le dispositif, c'est tout à fait possible. Sur ce, si nous ne le faisions pas, nous ne serions pas obligés de le mettre en œuvre. Mais comme on est dans un processus qui est tenu à un calendrier très précis, donc voilà ce que je vous propose. Donc, 4, 1, 2, 3, 4 votes contre et 2 abstentions. Monsieur Sageot et Madame Renaud. Bien. Alors, concernant la question de Monsieur Gilles, je me suis adressé à l'administration. Nous allons vérifier Il se peut, mais moi je n'en ai pas souvenir, parce que c'était à quelle période? C'était au mois d'août, c'est ça? Non? Vous avez...
Micro. Micro.
Vous avez été sollicité le 6 juillet 2012, vous avez répondu le 6 août 2012 et la transaction s'est faite le 29 août 2012.
Très bien. Donc a priori, mais nous allons le vérifier, cela pourrait être un passage de la propriété d'une société à une autre société. C'est-à-dire en fait, c'est une des deux, ça peut être une dénomination de société différente. Mais ça, nous allons le vérifier. Mais je ne vois pas pourquoi nous aurions accroché cela à une levée de la préemption sur un terrain, puisque nous n'en avions pas la possibilité ni l'autorisation. Légalement, nous ne pouvons pas le faire. Bien, donc je vous tiendrai au courant sur les recherches.
Au moment de la transaction, vous pouvez exercer le droit de préemption. Et c'est à ça que vous avez renoncé le 6 août 2012. Mais
vous pensez que nous allions acheter ce terrain?
Non, mais non, on vous a posé la question le 6 juillet, monsieur, et vous avez répondu le 6 août que la ville renonçait. Donc si vous renonciez le 6 août, ça veut dire que la délibération que vous nous avez présentée aujourd'hui était déjà dans les tuyaux.
Mais pas du tout. Si c'est une délibération qui est basée sur autre chose que de vendre un terrain pour... une opération particulière. Là, ça n'a pas changé. A priori, d'après ce que me dit l'administration, mais on va vérifier, ce serait un changement d'intitulé de la société. Alors, je vais vérifier, cher monsieur. Je vais vérifier. Ben, je vais vérifier, madame. Moi, je... Bon, oui. Ben, écoutez, je vérifierai, je vous ferai une communication au conseil municipal. Madame Gastine.
Alors, mise à jour du tableau des effectifs. Deux décrets récents en date du 18 décembre 2012 viennent de réformer le cadre d'emploi des infirmiers territoriaux en intégrant les agents relevant du cadre d'emploi des infirmiers territoriaux catégorie B dans le nouveau cadre d'emploi de catégorie A des infirmiers territoriaux en soins généraux et avec effet au 1er janvier 2013. Donc, le grade avant la réforme, c'était infirmier de classe supérieure catégorie B, qui devient infirmier en soins généraux de classe supérieure catégorie A, et l'infirmier de classe normale catégorie B, qui devient infirmier en soins généraux de classe normale catégorie A. Il convient donc pour nous de mettre à jour le tableau des effectifs avec au 1er janvier 2013 afin de prendre cette réforme en compte. Donc nous avons une infirmière de classe normale, non titulaire à temps complet, qui va donc devenir maintenant une infirmière en soins généraux de classe normale, non titulaire à temps complet.
Bien. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Il n'y en a pas, pas d'abstention, pas de vote contre. Merci. Madame Gastine, sur le deuxième rapport.
Oui, alors il s'agit de l'approbation d'une convention de partenariat relative à l'organisation et au fonctionnement du club de loisirs et découvertes Montalembert. Alors, depuis septembre 2012, l'Institut Montalembert a choisi d'organiser son temps de travail de ses élèves sur la base de 4 jours et demi en faisant classe le mercredi matin et a sollicité la commune afin que les élèves fréquentant les clubs de loisirs soient pris en charge par des animateurs de la commune durant le temps périscolaire le mercredi après-midi. L'Institut Montalembert n'étant pas organisé pour mettre en place et gérer un accueil périscolaire, l'Institut a proposé de rembourser à la commune les frais inhérents à l'organisation de cet accueil. Mais le nombre d'enfants est inférieur à celui prévu et l'absence de possibilité pour l'Institut de recruter et de rémunérer par lui-même des vacataires en complément des animateurs de la commune ont conduit l'Institut et la commune à décider d'une part de modifier cette organisation à la prochaine rentrée 2013, Donc, il convient d'annuler la précédente délibération qui a été prise en 2012 et prévoit donc la mise à disposition de la directrice du club de loisirs et d'autoriser Monsieur le maire à signer une nouvelle convention prévoyant les modalités de fonctionnement du club de loisirs Montalembert et le remboursement des salaires et des charges patronales des animateurs de la commune travaillant au sein de ce club de loisirs.
Y a-t-il des questions, Monsieur Hardy?
Pas plus une remarque de principe. La ville avait quand même fait le choix de reporter cette réforme sur 2014. Je pense qu'il aurait été logique, hein, je ne sais pas quelle discussion a eu lieu, mais qu'il y ait une forme d'uniformisation des prises de position entre le public et puis éventuellement le privé. On a là, à mon avis, un élément de distorsion. Je pense que c'est plus une remarque de principe.
Je voudrais vous rappeler quand même que si vous regardez les dates, vous apercevrez que c'était avant l'arrivée de M. Payon qu'ils étaient en 4 jours et demi et que nous avons mis en œuvre le dispositif avant de connaître la réforme. Et que là, nous changeons le dispositif au niveau de la convention dans très peu de temps d'ailleurs, à partir du mois de septembre de l'année 2013. Donc il n'y avait pas de superposition de problèmes, puisque à l'époque, si vous voulez, quand ils nous ont demandé notre aide, la réforme Payon n'était pas arrivée. Y a-t-il d'autres questions? Il n'y en a pas. Des abstentions, des votes contre? Il n'y en a pas. Madame Delaney, deux délibérations, je vous laisse.
Alors, c'est pour les frais de scolarité. Donc, c'est une dénonciation des conventions et accords de réciprocité avec les villes de Saint-Maur et de Paris. Voilà. Actuellement, nous avons 3 enfants saint-mauriens qui sont accueillis à Nogent et aucun nogentais sur Saint-Maur. Et 1 enfant nogentais scolarisé à Paris et aucun enfant parisien sur nos écoles. Mais on voudrait supprimer la réciprocité. Voilà.
Très bien, y a-t-il des questions? Oui. Attendez, d'abord celle-là, hein. D'abord cette délibération. Oui.
Oui, je vous avais déjà évoqué la question. Nous n'avons pas de classe horaire aménagée à nos gens. Bon, or, il faut savoir que la seule classe horaire aménagée existe à Saint-Maur. Donc, je vous avais évoqué cette situation dans le sens où on va donc fermer cette possibilité-là, donc de pouvoir éventuellement pour des enfants utiliser ces classes horaires aménagées, qu'on puisse dans le même temps nous-mêmes sur nos gens se doter de ce type de fonctionnement.
C'est pas qu'on va refuser les enfants des autres communes du tout. C'est-à-dire qu'une commune à une autre, on a tous des frais de scolarité. Donc il est dans la logique qu'une commune paye les frais de scolarité pour un enfant qui va venir sur Nogent et Nogent paye les frais de scolarité pour un enfant qui va sur une autre commune. Parce que si vous voulez, là, on se retrouve avec un déséquilibre, c'est-à-dire qu'on a des enfants de Saint-Maur et Saint-Maur ne veut pas payer. Donc c'est pas logique. Moi, ça me pose problème. Et donc tant qu'on n'a pas passé cette délibération, Saint-Maur nous envoie ses élèves que l'on ne peut pas refuser s'ils déménagent en cours d'année. Enfin, si vous voulez, on a des cycles, hein, de la maternelle, c'est de la petite section jusqu'à la grande section. Un enfant ne peut pas être déscolarisé s'il veut rester dans la commune dans laquelle il est, même si les parents déménagent. Et la même chose du CP jusqu'au CM2. Donc voilà, donc il y a des conventions qui doivent être passées et on supprime la gratuité réciproque, c'est tout. Mais c'est pas pour ça qu'on ne va pas accepter des enfants des autres communes ou vice-versa. Parce que nous, on a des enfants pour des CLIS qu'on n'a pas à nos gens qui vont sur Vincennes et nous payons les frais de scolarité, ce qui est logique.
Et là, c'est dans le cadre de ce qu'expliquait M. Arasi, c'est sur Saint-Maur.
Bah, Saint-Maur, s'il y a des classes aménagées, si un enfant a besoin d'aller à Saint-Maur pour une classe aménagée, Nogent paiera les frais de scolarité à Saint-Maur.
Sachant que Saint-Maur ne fera pas l'équivalent dans l'autre sens.
Voilà.
Donc vous,
C'était de toute façon plus aussi dans la réflexion dont on avait parlé à deux ou trois reprises sur la réflexion d'avoir une classe horaire aménagée parce qu'aujourd'hui, pour des élèves, en particulier ceux qui veulent faire de la musique...
Oui, mais, non, mais je vais pas vous apprendre que malheureusement, ce n'est pas nous qui décidons de cela.
Non, mais on en avait parlé, ça, c'était aussi l'occasion d'évoquer cette question au décours de cette délibe.
Mmh. Enfin, ce que vient de dire Véronique Delannay, c'est que ça va marcher dans un sens, mais dans l'autre, il n'y aura pas de remboursement si jamais un enfant de nos gens va à Saint-Maur, alors que dans l'autre sens, nous, normalement, nous le faisions. Bah, dans ce cas-là, nous ne le ferons pas. Mais on paiera quand même dans la bonne direction. Il n'y a pas d'abstention ni de vote contre pour cette délibération. Merci. Alors, l'approbation de la convention de partenariat, madame de l'année. C'était vous, madame Munzer?
Oui, je vais le lire et puis tu compléteras. Approbation de la convention de partenariat relative au projet d'éducation à l'image dans le cadre du festival Autour du cours. Donc c'est la MJC Louis Lepage qui organise chaque année en partenariat avec les communes de Nogent et du Perreux-sur-Marne un festival dédié aux courts-métrages amateurs et professionnels intitulé Autour du cours. Et cette année, donc, nous avons un thème, c'est sur l'inventeur du dessin animé, donc Émile Cole. Et il y a une classe de l'école élémentaire Léonard de Vinci qui participe à cette action.
Madame Munzer veut ajouter un point, non?
Non, rien à rajouter, si ce n'est que je suis très contente que... qu'on fasse des choses vraiment ensemble avec Véronique Delannay et donc de commencer à vraiment travailler sur la culture et l'éducation pour anticiper sur les rythmes scolaires qui vont aussi nous occuper un peu toutes les deux avec Bernard Rasquin probablement.
Monsieur Hardy.
Oui, dire que je voterai pour et dire que c'est un bon projet.
Merci Monsieur Hardy.
Et d'ailleurs c'est un projet qui déborde de nos gens, puisque nous avons... C'est ça qu'il faut aussi dire.
Ah oui, alors ça, c'est le projet Autour du cours, depuis donc plusieurs années là, qu'il existe. Le festival est effectivement à nos gens et au Perreux, à la Seine Watteau et au centre des bords de Marne. Et on a essayé aussi d'être un peu moteur sur cette histoire de classe, et donc de travailler avec l'éducation, et on essaye de faire la même chose au Perreux. Je crois qu'ils ont un peu plus de mal, je ne sais pas s'ils manquent de souplesse ou pas, mais en tout cas, on essaye vraiment de faire quelque chose sur les deux villes, effectivement.
Bien. Il n'y a pas d'abstention ni de vote contre. Merci. Donc, dernière délibération, la 1358, compte rendu des décisions du maire. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas. Merci. Vous avez une question ?
Moi, j'ai deux questions orales.
Ah,
orales,
d'accord.
Deux questions auxquelles sur lesquelles je suis intervenu déjà en conseil. La première concerne, alors vous allez me dire encore une information donnée par les journalistes.
Je prends les
préalables. Hein,
vous parlez beaucoup aux journalistes.
C'est pas la peine de taper sur les journalistes.
Hein. Non, mais moi je peux taper sur les journalistes.
Il se trouve que je vous avais demandé de réintervenir puisque vous aviez fait une promesse concernant une famille endeuillée dans le cadre d'un drame qui était survenu à l'été.
Je crois que vous avez répondu trois fois.
Non, mais justement, là, je reviens là-dessus, parce qu'il y a un an, je vous posais la question au conseil municipal, et aujourd'hui, cette situation, on n'a pas bougé, donc la promesse que vous aviez faite n'est toujours pas tenue pratiquement deux ans après, et je finis. Cette famille, aujourd'hui, vit dans des conditions d'insalubrité totale, et dans les conditions que vous connaissez, donc je vous redemande ce que vous envisagez de faire pour cette famille. Ça, c'est ma première question.
Je peux répondre maintenant ?
Bien sûr.
Bien. Le sujet est particulièrement simple. Actuellement, cette famille habite dans un logement qui fait partie des 210 logements qui vont être réhabilités dans le cadre du programme Val'Office. Que les logements actuellement d'accueil vont être mis à disposition des personnes qui seront qui se verront proposer un logement alternatif, puisque elle est dans une des parties qui fera l'objet d'une réhabilitation lourde, c'est-à-dire avec absence de locataires pendant la réhabilitation, et que le processus étant enclenché, elle va se voir proposer un logement dans une autre résidence de Val-Office, ou un logement nouveau dans lequel elle pourra rester, où elle pourra faire à la fin de la réhabilitation la demande de retourner dans le même immeuble dans lequel elle est actuellement. Donc le processus est enclenché, le tout, c'est que cela soit possible, mais cela se fait étape par étape. Dans un premier temps, la réhabilitation concerne la rue Anquetil, et là, dans très peu de temps, nous allons passer à la rue Odile-Laurent, là où habite cette famille.
Donc, vous nous dites que c'est à une échéance de quoi ? De quelques jours, de quelques semaines ?
C'est cette année. C'est cette année que ça se fera.
Donc
c'est
à peu près ça.
Hein, comment ? Oui, c'est ça. Non.
Il était quand même à rappeler que cette femme vit tous les jours en regardant par ses fenêtres la situation, vous le savez. Donc, et je trouve voilà, qu'on aurait dû, c'était justement peut-être l'honneur de ce conseil municipal, de faire en sorte qu'elle soit relogée, comme vous l'aviez annoncé, dans des conditions rapides et efficaces.
Monsieur, voilà. Pour permettre...
Non, mais j'entends que c'est fin 2013.
Laissez-moi préciser une chose. Pour permettre cette réhabilitation, nous avons été obligés de geler entre 30 et 35 logements pour justement transférer les personnes dont les appartements vont être restructurés complètement. Donc nous n'avions pas de possibilité de relogement à ce moment-là, puisque les logements étaient réservés pour cette opération. Et aujourd'hui, cela va être possible, mais dans des conditions un peu différentes. C'est qu'elle pourra rester dans le nouvel appartement ou elle pourra choisir de revenir dans l'immeuble dans lequel elle est actuellement. Voilà.
Bon, de toute façon, c'est votre réponse, mais ça ne me satisfait pas comme vous l'entendez.
Oui, mais moi, je peux pas.
Non, mais c'est pas. Enfin, ma deuxième question concerne un sujet que j'avais aussi abordé, puisque nous parlions de la salle Nogent-Tonique il y a quelques mois. Nous avions constaté. Vous aviez fait des recherches, vous aviez constaté effectivement qu'il y avait de la vétusté là-dessus. Donc il y avait un adhérent qui, avec d'autres personnes qui sont utilisateurs de ce club, ont signé des pétitions, etc., ont fait un peu de bruit, ce qui finalement nous a permis de prendre connaissance de ces difficultés. Or, comme vous le savez, Nissiros a pris une décision que nous avons analysé de manière précise sur le plan juridique, puisqu'avant de l'aborder en conseil municipal, on a regardé aussi le sujet, et ils ont donc décidé de virer cette personne sur des critères juridiques que nous considérons extrêmement discutables. Donc ça veut dire finalement, on fait un peu de bruit, ça va pas bien, et puis hop, finalement, les gens sont débarqués comme ça. Donc, la question, puisque vous avez été sollicité par un certain nombre de ces adhérents, vous avez reçu un certain nombre de courriers, c'est de savoir quelle suite vous allez y donner. Pour notre part, je vous informe que nous allons écrire donc au délégataire pour lui demander un certain nombre d'éléments d'information, parce que nous n'acceptons pas que des décisions soient prises sur des bases juridiques éminemment contestable. Donc, quand je dis ça, avec toutes les conséquences éventuelles que ça pourrait avoir.
Écoutez, c'est une société à caractère privé qui gère son personnel. S'il y a un problème, les prud'hommes... Non, mais monsieur Arazi, les prud'hommes existent. S'il y a vraiment à contester...
Excusez-moi, mais là, on parle d'un adhérent. On ne parle pas de quelqu'un qui travaille dans le personnel. On parle d'un client.
Alors, c'est encore pire. C'est encore pire. C'est du droit privé. Moi, je ne vois pas comment... je peux intervenir
vous trouvez
dans une démarche comme celle-là.
On peut donner une délégation de service public à quelqu'un sur une base de qualité, et quand les gens se plaignent de la qualité, on peut les renvoyer manu militari sans leur demander. Excusez-moi, ça pose la question des délégations de service public qu'on donne, parce que c'est là on est devant nos responsabilités.
Écoutez, vous êtes au courant de cette de ce problème. Monsieur Arazi, j'aimerais que vous alliez au bout. Non, mais quand vous prétendez... Mais monsieur Arazi, s'il vous plaît...
Oh, on te parle.
Bon, mais écoutez, vous me laissez préciser les choses. J'aurais aimé que vous alliez jusqu'au bout de votre présentation objective en annonçant ce qui vient de m'être rappelé, parce que je ne m'en souvenais pas, c'est que cette personne insultait le personnel de la société et se comportait d'une façon particulière vis-à-vis de ce personnel. Donc là, c'est autre chose, et pour moi, je ne pense pas que je doive défendre des personnes qui se comportent comme telles à l'intérieur d'une société. Maintenant, vous savez, j'ai souvent critiqué certains syndicats bien marqués politiquement qui intervenaient dans la gestion de société et qui d'ailleurs ont eu des résultats particulièrement peu brillants dans certains cas en défendant l'indéfendable. Moi, je considère que la gestion du personnel de cette société et la gestion de la clientèle relève d'elle et pas de la ville. Sauf si cela pouvait porter préjudice à l'image de la ville, ce qui n'est pas le cas, puisque c'est exactement l'inverse de ce qui s'est passé. Bon, sur ce, si vous voulez aller plus loin, ben, libre à vous d'aller plus loin. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.